Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Le renouveau démocratique passera-t-il par la crise écologique ? Bonjour Pierre Charbonnier, vous êtes philosophe, chercheur au CNRS et chargé de recherche à l'EHESS. Et vous publiez une somme, Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques. Un livre qui incontestablement va faire date, il est publié aux éditions La Découverte. C'est une forme d'histoire de la pensée écologique, de la pensée de la nature. Vous nous expliquerez en quoi il y a aujourd'hui l'aboutissement d'un processus dont vous décrivez les différentes étapes. Mais tout d'abord, comme il s'agit d'une actualité évoquée largement ce matin, notamment dans la revue de presse internationale, j'aimerais avoir votre avis sur cette drôle d'alliance qui est conclue donc entre le turquoise et le vert en Autriche, autrement dit entre un parti conservateur et un parti écologiste de gauche. Vous qui justement avez écrit sur la manière dont l'écologie peut ou non influencer, s'encastrer dans la pensée politique. Qu'en pensez-vous, Pierre Charbonnier ?
Oui, bonjour. D'abord, écoutez, cette coalition, effectivement, un petit peu une surprise, mais elle rend quand même lisible une partie des évolutions idéologiques contemporaines, je pense, puisque le mainstream politique défini par
le courant majeur
libéral qui est incarné par les institutions européennes notamment produit des contre-mouvements qui sont de différentes natures, et les deux principaux contre-mouvements, c'est le mouvement, on peut dire, de reconquête de la souveraineté sur une base nationale à partir de la fétichisation des frontières, donc les conservateurs. Mmh. Et puis un contre-mouvement, on peut dire, de progressisme social à forte coloration verte aujourd'hui, donc les écologistes ou la gauche Labour traditionnelle qui se verdit aussi. Et il se trouve que là, dans ce pays dont les caractéristiques institutionnelles sont différentes de celles auxquelles on est familier, font que ces deux contre-mouvements qui sont radicalement opposés l'un à l'autre en viennent à devoir se coaliser parce qu'ils sont tous les deux minoritaires. Donc probablement que ça ne durera pas longtemps, on peut espérer en fait que ça ne dure pas longtemps pour bien montrer que ça n'est pas tenable, de la même manière en quelque sorte qu'il n'était pas tenable pour Nicolas Hulot vert de rester dans un gouvernement libéral ou même ultra-libéral. Donc voilà, on assiste à des recompositions et tout ça, ce sont des étapes d'une recomposition qui, à mon avis, va se poursuivre.
Mais alors, donc ça peut relever de la cuisine électorale, mais pourquoi faudrait-il que l'écologie soit de gauche? Là, elle semble l'être. Yannick Jadot, pour les écologistes français, explique que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Qu'en pensez-vous, Pierre Charbonnier?
Alors ça, c'est un point très politique, mais qu'on peut ramener à des enjeux théoriques qui sont en partie ceux du livre. C'est vrai que si on tient absolument à maintenir le lexique politique habituel de la gauche et de la droite, on peut être un petit peu stabilisé, notamment par exemple parce que les conservateurs prétendent avoir un discours social qui prétend préserver les acquis en fait du modèle social de l'après-guerre, à condition de fermer les frontières. Bon, du coup, il phagocyte une partie du discours de gauche. Et l'écologie, elle, est aussi une héritière, on peut dire, naturelle du mouvement social, mais au prix aussi d'un décalage assez important par rapport à l'idiome politique de la gauche classique, puisque elle exige un freinage de l'économie qui la met en porte-à-faux par rapport à une bonne partie des revendications ouvrières qui étaient liées à l'appareil productif, et on pourrait même dire en quelque sorte productiviste. Donc vous voyez, le clivage gauche-droite effectivement bouge un peu. Moi je considère toutefois que si l'écologie a un sens historique, c'est comme quelque chose qui vient régénérer le contre-mouvement socialiste en donnant de nouveaux appuis matériels à la lutte pour la justice sociale. Ces appuis matériels, c'est la transition énergétique, la transition agroécologique, la reconquête d'une certaine manière des territoires sur la base de ces nouvelles pratiques économiques. Donc moi je pense qu'elle est l'héritière de la gauche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rupture dans l'histoire politique.
Par exemple, au Rassemblement National, il y a aujourd'hui une tentative de développer un discours écologique un peu sur la base de celui qui pourrait être le discours emprunté par la coalition en Autriche, avec l'idée que finalement il peut y avoir une écologie du point de vue du climat, par exemple, du point de vue de la nature et aussi du point de vue des sociétés humaines. Ça, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, Pierre Charbonnier ?
Oui, c'est vrai qu'il faut s'attendre à cette grande déferlante là qui est en train de se préparer du côté de l'extrême droite, qui va réussir, enfin qui va essayer de verdir son discours en disant, pour pour caricaturer un petit peu, que la fermeture des frontières est une solution à tous les problèmes, ce que eux considèrent comme étant des problèmes sociaux d'immigration, et des problèmes, en fait, disons, d'extension des chaînes d'approvisionnement globales qui sont pas bonnes pour le climat. Et donc, ils disent, bon, bah, fermons les frontières, redevenons autarciques, et puis on va régler les deux problèmes d'un coup. Bon, moi, je pense qu'ils vont aggraver ces deux problèmes. Et d'ailleurs, on peut surtout dire que ce discours-là n'est qu'une façade, parce que quand on regarde les mouvements conservateurs, nationalistes, tels qu'ils existent aujourd'hui, l'exemple du Brésil est, je pense, le meilleur, et celui de l'Inde aussi, ils servent surtout à préserver le statu quo économique, voire l'accélération des prédations environnementales. On l'a vu cet été avec les feux en Amazonie. En Inde aussi, c'est un pays qui ne compte pas laisser tomber son approvisionnement en charbon. Bon, les États-Unis, je reviens pas là-dessus.
Mais si, justement, c'est intéressant de revenir là-dessus, puisque dans votre livre « Abondance et liberté » aux éditions de La Découverte, vous dites finalement que Bolsonaro et Trump sont deux symptômes d'une évolution par rapport à la pensée écologique. Qu'est-ce que il y a pour vous à penser chez ces deux personnages en rapport avec l'évolution de la pensée écologique, Pierre Charbonnier ?
Oui, alors je partage avec certains camarades, comme par exemple Bruno Latour, un constat assez général qui consiste à dire que l'arrivée au pouvoir de ce type de personnalité-là est révélatrice d'une situation politique, idéologique plus générale. Cette situation, elle se caractérise par le fait que il semblerait qu'aujourd'hui, pour maintenir le projet, en fait, d'autonomie sociale fondée sur un rapport extractif intensif aux ressources naturelles, il faille désormais en rabattre sur les exigences démocratiques. C'est-à-dire que c'est la fin d'un grand arc historique, celui que j'essaie de décrire dans le livre, qui remonte au moins au XVIIIe siècle, et en fait même, d'une certaine manière, au XVIIe siècle, qui a vu la naissance de ce que j'appelle le pacte libéral. Mmh. Le pacte libéral, c'est l'idée toute simple selon laquelle l'accroissement l'accélération de la conquête matérielle des ressources et la conquête des libertés politiques vont de pair. Plus nous serons libres et plus nous serons productifs, plus nous serons productifs et plus nous serons libres. C'est ce que répètent sans arrêt les libéraux classiques du XVIIIe siècle, Hume, Smith, et puis d'une manière un peu plus sombre, Ricardo, Malthus, etc.
C'est une conquête de l'autonomie.
C'est une conquête de l'autonomie sur la base de la conquête des gains de productivité, en fait, de ce qu'on a appelé plus tard la croissance. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est absolument inouïe d'un point de vue historique. C'est que non seulement le cadre matériel à l'intérieur duquel on vit est totalement bouleversé par l'érosion de la biodiversité et le changement climatique principalement. Donc on ne vit plus du tout dans le même monde que celui dans lequel nous vivions auparavant, jusqu'il y a encore 30 ou 40 ans. Et donc ces repères idéologiques qui ont été construits dans le passé, cette manière d'adosser la conquête des libertés politiques sur la conquête, on peut dire, des libertés économiques, eh bien, elle tombe dans le vide. Voilà. Elle est en porte-à-faux, elle est en décalage par rapport aux capacités de charge du système Terre. Et donc, nous sommes obligés de réinventer de nouvelles formes de coopération, des nouvelles formes de coexistence sociale, sans quoi, eh bien, le piège se referme. Et ce piège, le prototype de ce piège, c'est Trump, c'est Bolsonaro, qui nous disent « continuons à avoir ce rapport extractif-productif », donc c'est le pétrole de Trump. Et quand on dit Trump, on dit Obama aussi, parce que c'est sous Obama que les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole.
Et là, il s'agissait d'une promesse d'autonomie pour les États-Unis.
Tout à fait. Bon, alors pour Obama, ça voulait dire que ça permettait de financer un modèle social, mais en attendant, il n'a fait que plonger son pays plus dans un piège. Et puis du côté du Brésil, c'est donc cette économie extractiviste. En fait, le Brésil, c'est les États-Unis, ce qu'était aux États-Unis au 19e siècle. C'est la lutte entre les cow-boys et les Indiens, en fait. C'est quelques propriétaires terriens, qui sont aujourd'hui directement les élus au Parlement, qui poussent pour faire de l'Amazonie, enfin de cet immense pont vert qu'est le bassin amazonien, un terrain de jeu pour la filière du soja et du bétail.
Mais Pierre Charbonnier, vous qui êtes philosophe, vous avez écrit ce livre « Abondance et liberté » en plusieurs mois, j'imagine. Il est publié aux éditions de La Découverte. Et vous dites que durant ce laps de temps, il était possible de voir la dégradation des conditions écologiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parallèlement, le temps du politique n'est pas a priori le temps long. Alors, quelqu'un comme Trump ou quelqu'un comme Bolsonaro peuvent très bien prendre des décisions qui sont sur le plan écologique des catastrophes sans en subir les conséquences politiques.
Oui, c'est ça en fait tout l'enjeu du livre, c'est que je pense pour la première fois de l'histoire, on est amené à réaliser que le substrat matériel sur lequel se déploie notre action et qui donne des prises à notre action change plus vite que les catégories intellectuelles dont on dispose. Vous voyez, prenez tout simplement le concept de propriété privée. C'est bon, qui remonte in fine au droit romain, très ancien, mais disons qui est constitutionnalisé, institutionnalisé à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, ça a plusieurs siècles. Et la réalité matérielle qu'on éprouve aujourd'hui, elle n'a que quelques années, quelques dizaines d'années, disons. Ce nouveau monde où les terres s'épuisent, où le régime des pluies change, où les feux changent totalement le couvert forestier, les températures changent, etc. Ça, c'est un nouveau monde. Et il est plus jeune que notre matériel conceptuel pour l'appréhender. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer à quel point l'appareil conceptuel de la pensée politique, du support idéologique général dans lequel on vit, a toujours été lié à ce que j'appelle dans le livre des affordances matérielles, c'est-à-dire des prises que nous offre le monde matériel pour élaborer des idées. Donc, le vieux monde de l'économie organique, paysanne, agraire, en fait, fournissait des prises à la pensée politique. Cette pensée politique, ça a été essentiellement la poussée libérale, individualiste du XVIIIe siècle, les Lumières. Ensuite, le monde des machines, de développement industriel, de la première forme de carbonisation de l'économie, a donné des prises aux luttes sociales ouvrières, la conquête de ce qu'on appelle la démocratie industrielle. Et aujourd'hui, ce nouveau monde, complètement bouleversé par l'explosion des énergies fossiles, notamment du pétrole, doit nous donner des nouvelles prises et doit fournir le socle d'une nouvelle élaboration d'une pensée de la coexistence sociale.
Alors d'où une question qui est souvent posée par des journalistes, Pierre Charbonnier, je sais qu'elle vous agace cette question. Si les catégories mentales dans lesquelles on doit penser le monde aujourd'hui doivent évoluer du fait de la crise écologique, est-ce que la démocratie ne doit pas être mise entre parenthèses?
Alors, c'est vrai que ça pourrait être une conclusion de dire le projet démocratique étant intrinsèquement lié à la période industrielle, peut-être faut-il l'abandonner.
Mais aussi à l'autonomie, mais aussi à un certain nombre de catégories de pensée, parce que finalement, il n'y a pas de démocratie sans autonomie. Si vous pensez, vous, en tant que philosophe, Pierre Charbonnier, que l'autonomie est aujourd'hui antagoniste avec un impératif supérieur qui est, par exemple, l'intérêt de la planète, est-ce qu'il ne faut pas mettre ce projet entre parenthèses?
Alors, moi, je ne le pense pas du tout, parce que je ne pense pas que les formes passées de la conquête de l'autonomie adossées à l'intensification économique fassent tomber avec elles le projet démocratique. Tout simplement parce que le projet démocratique, en fait, est plus large, plus général que sa confiscation par les politiques de croissance. D'ailleurs, d'un point de vue historique, la période durant laquelle les économies croissent est assez brève. C'est 1850, 1900, selon les régions, 90, 2000, 2010. Bon, les pays d'Asie sont une spécificité, mais eux aussi ralentissent maintenant. Donc ça, c'est assez bref. Donc il va falloir inventer les bases d'une coexistence démocratique sans le support de la croissance. Donc on peut dire d'une certaine manière que elle n'aura plus grand-chose à voir peut-être avec, disons, les démocraties de consommation de masse, des Trente Glorieuses, par exemple, et encore aujourd'hui, peut-être. Mais en attendant, l'enjeu, c'est pour ça que je me réfère beaucoup à Karl Polanyi dans le livre.
Karl Polanyi, c'est un économiste, qu'est-ce qu'il disait, Polanyi?
Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il définit le socialisme comme une force sociale idéologique qui résiste à la dégradation du collectif par, en gros, le marché. Et le marché et les machines, disons. Bien, aujourd'hui, nous subissons un nouveau choc matériel d'une ampleur aussi profonde que celle du choc d'industrialisation. Et nous devons y répondre en nous protégeant contre ce qu'il peut avoir de pathologique, contre sa capacité à désagréger le corps social. Donc, en cela, l'écologie politique est un effort démocratique parce qu'il entend protéger cette coexistence collective. Les formes institutionnelles qu'elle va prendre, celles-là, je pense qu'elles sont totalement à inventer. Et effectivement, une bonne partie des réflexes idéologiques de la gauche, on pourrait dire, tombe dans le vide.
Mais alors, l'un des messages de cet économiste Poliani consistait à dire « tout ne peut pas devenir marché, et notamment pas le travail humain, notamment pas la terre. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient strictement encadrées, faute de quoi eh bien on peut aboutir à des catastrophes. » L'idée de réintégrer un certain nombre de nuisances, j'utilise un euphémisme, voire de catastrophes écologiques dans le prix des choses, de faire une taxe carbone, de faire ce genre de choses. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être une manière de réconcilier libéralisme et écologie, Pierre Charbonnier?
Alors, ça pourrait, effectivement, dans le langage économique standard, le réflexe pour réencastrer l'économie dans le système Terre, c'est ça. Ça consiste à imposer des limites réglementaires ou fiscales au développement productif et technologique. Mais il y a une autre manière de faire qui, je pense, correspond plus à ce que Poliani nous apprend, c'est tout simplement de mettre un terme à l'idée selon laquelle la mission de l'économie est de croître. Tout simplement. Et même plus, de mettre un terme à l'idée selon laquelle l'économie consiste à développer la relation productive avec l'espace matériel, avec les territoires. En fait, si on change un petit peu de regard sur ces choses-là, on peut réaliser que nous n'avons pas réellement une relation productive à la Terre. Par exemple, le monde agricole, on ne produit pas du grain. On cultive une terre pour en actualiser un potentiel, disons, de fertilité. Mais ça s'entretient. Ça ne peut pas se traiter comme un stock. Donc la relation productive, qui est vraiment le paradigme de la pensée moderne, mais aussi de la critique socialiste, je pense à Marx, cette relation productive, c'est une espèce de mythologie, de métaphysique qu'il faut abandonner.
Pierre Charbonnier, vous êtes philosophe. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous pensez de ces pensées de l'effondrement qui sont aujourd'hui très populaires en matière écologique et comment il est possible de réconcilier ou en tout cas d'articuler une pensée politique et une pensée écologique. C'est ce que vous faites dans ce livre important, Abondance et Liberté. Il est publié à la Découverte. C'est une bonne chose de débuter l'année avec vous parce que je pense qu'on va très largement commenter votre ouvrage.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous retrouvons notre invité, le philosophe Pierre Charbonnier. Vous publiez Abondance et Liberté aux éditions de la Découverte. C'est une histoire environnementale des idées politiques, si l'on suit le sous-titre. Mais précisément, depuis quelques jours, quelques semaines, devrais-je dire, en France, l'actualité écologique passe un peu au second plan, car ce qui prime avant tout, c'est cette réforme des retraites et le mouvement social qu'elle a suscité. Auparavant, il y avait eu les Gilets jaunes, bien sûr. Comment articulez-vous, Pierre Charbonnier, la manière dont ces crises sociales font passer au second plan la crise écologique?
Alors moi, je ne pense pas du tout que la crise écologique passe au second plan. Disons, dans le langage que vous, les journalistes, utilisez chaque jour, ça a l'air de passer au second plan. Mais une réforme des retraites, c'est une modification en profondeur de la façon dont on envisage l'avenir et la solidarité intergénérationnelle. La grève dans les transports, c'est fabuleux à quel point ça révèle comment l'organisation de nos sociétés est tributaire d'infrastructures matérielles et comment la demande de justice, de droit, d'égalité passe par ces infrastructures matérielles. J'ai été frappé de voir il y a quelques jours une déclaration, je crois que c'est un des candidats à la mairie de Paris qui dit « on va rendre plus de lignes de métro automatiques parce que comme ça, les grèves auront moins de prise » sur les transports. Ça, c'est fabuleux pour moi, parce que ça révèle que pour exercer des demandes de justice sociale, il faut avoir des appuis matériels, et les systèmes de transport en sont un excellent, le système productif en était un encore meilleur, mais on n'en a presque plus, en tout cas ici même. Et donc, vous voyez, la façon dont on organise, tout simplement, de manière très triviale, une ligne de métro, est-ce qu'il y a un pilote ou est-ce qu'il n'y a pas de pilote, c'est déjà très politique, et c'est lié à la façon dont on utilise des ressources, de l'espace, et dont on articule les demandes de justice à ces choses-là.
On va revenir à cette question des systèmes de transport, mais alors prenons l'autre crise sociale que la France a traversée, celle des gilets jaunes. À l'origine, il y avait une question, celle du prix des carburants. Alors ça, c'est une question qui intéresse la pensée écologique, bien entendu, Pierre Charbonnier.
Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'on a assez vite oublié le déclencheur de cette crise, mais effectivement, vous le rappelez bien. Alors, bon, les gilets jaunes, ça a été un moment particulier pour les gens qui font des sciences sociales. Parce que chacun y est allé de son interprétation, moi aussi d'une certaine manière. Il se trouve qu'effectivement, cette crise-là a bien montré qu'une partie importante de la population française ne pouvait plus n'arrivait plus à placer ses espérances dans le schéma socio-économique classique hérité des Trente Glorieuses, de l'accession à une meilleure condition par la protection via des diplômes, via des plans de carrière progressifs, mais aussi via l'appui justement sur des infrastructures matérielles, notamment l'automobile, qui est un des symboles principaux, et que il y avait une sorte de mur qui s'opposait à ces demandes d'égalité, de liberté. Et donc là, ça évidemment, ça provoque des choses très profondes dans la société. Malheureusement, on pourrait estimer aussi que la réponse à cette crise du côté du front écologique n'a pas été suffisante, a été quand même assez largement décevante, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que les tenants de l'écologie politique en France et en Europe disent « Mais voyez, c'est exactement sur ce point que nous, on veut agir, on veut libérer, on pourrait attendre d'eux qu'ils disent ça, nous essayons de libérer la structure économique de nos nations de cet impératif de croissance, de compétition, de performance, et essayer de faire des politiques de solidarité au lieu de faire des politiques de concurrence. Et je ne sais pas si ça aurait parlé à tous les gilets jaunes, parce que dans ce mouvement, évidemment, il y a des profils sociaux et des attentes qui sont assez différentes. C'est pas du tout unifié. Même les mouvements syndicaux, d'ailleurs, ne le sont pas. Mais au moins, nous aurions peut-être pu voir comment l'écologie pouvait avoir prise sur des mouvements sociaux qui, apparemment, ne sont pas des mouvements écologiques.
Bon, mais alors, je reviens aux faits générateurs. Pour une partie d'entre eux, en tout cas, ces gilets jaunes étaient des habitants du périurbain. Autrement dit, ils habitent plutôt loin de l'endroit où ils travaillent et donc ils ont besoin d'une voiture. Et cette voiture requiert, jusqu'à présent en tout cas, des carburants fossiles et en l'occurrence du diesel, puisque c'est cela qui a fait débuter cette gronde. Comment essayer de trouver une solution? C'est un peu la quadrature du cercle. On a un habitat qui n'a pas été planifié, qui en tout cas a été développé sans le secours des transports collectifs. Quelle solution trouver? Est-il possible de ménager l'écologie et la politique, en l'occurrence Pierre Charbonnier?
Bien, de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on veut répondre en même temps à des demandes de justice et à des impératifs écologiques, en fait, qui nous imposent de freiner notre utilisation d'énergie, il faut qu'on arrive à les articuler et qu'on fasse les deux en même temps. Sur la question, de la ville, des transports, je pense que c'est pas que c'est absolument simple, mais disons, permettre au plus grand nombre de vivre plus près de leur lieu de travail, et donc de dépenser moins dans les transports, de se lever moins tôt le matin, en fait, de bénéficier de qualité de vie, ça devrait être un objectif, disons, on pourrait dire transpartisan. Mais il y a des intérêts bien compris qui font entrave à ce genre de politique-là. Mais vous voyez, la mutation urbaine est tout de même assez facilement, on peut la traduire assez facilement, à la fois dans le langage de la justice sociale et dans le langage de l'écologie.
Vous me semblez bien optimiste, parce que fut un temps on essayait de mettre les villes à la campagne. Maintenant, vous voudriez mettre les campagnes à la ville. En tout cas, cet habitat dispersé, pour le rapprocher des villes, il va falloir imaginer des solutions qui, aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas véritablement accessibles.
Oui, mais voyez, j'ai vu il y a quelques jours que Elon Musk proposait de construire
le patron de Tesla,
proposait des automobiles électriques, des immenses tunnels souterrains sous, en l'occurrence en Californie, pour décongestionner les autoroutes urbaines et donc fluidifier le trafic sans se poser la question du transport public, de la transformation de l'habitat. Et du coût que ça peut représenter en termes écologiques aussi d'aller encore forer dans des sols. Donc vous voyez, l'espèce de délire d'imagination technologique que suscite la volonté de ne pas changer les pratiques collectives, c'en est un bon exemple. Alors que un transport collectif gratuit et l'opportunité offerte via toutes sortes d'incitations à chacun de vivre plus près de son lieu de travail, c'est à la fois plus simple, plus juste, plus économe, mais il y a des obstacles à lever.
Oui, mais la voiture était aussi une promesse d'autonomie. J'utilise ce mot parce que c'est un mot qui est très important dans votre lecture de l'évolution de la pensée politique et économique dans votre livre « Abondance et liberté ». Le fait d'avoir une voiture est un choix qui permet, bien entendu, une autonomie complète par rapport aux autres contraintes de transport, Pierre Charbonnier. Et c'est pour ça que ce choix est aussi cohérent avec une certaine idéologie ou un certain esprit de l'époque, disons.
Oui, alors l'automobile effectivement a été le symbole de l'autonomie individuelle, et pas de l'autonomie collective. Mais c'est très tardif, c'est après la Seconde Guerre mondiale et après en fait la période où le pétrole était à la fois abondant et très bon marché, que on peut dire les formes dominantes de subjectivité ont été construites par l'automobile comme véhicule, véhicule au sens trivial, mais aussi comme véhicule de ce sens de l'autonomie personnelle. Mais le problème, c'est qu'en faisant croître l'autonomie individuelle, on faisait décroître l'autonomie collective, c'est-à-dire des formes de coexistence plus intégrées, qui étaient, elles, pour le coup, bien emblématisées par le train, le tramway dans les villes, hein, qu'on a ensuite retiré pour faire place aux automobiles. Donc, vous voyez, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment toujours des formes technologiques, des manières de se rapporter à l'espace, au territoire, sont imbriquées dans des conceptions des libertés individuelles et collectives. Et je pense que l'impératif écologique est de nature à nous faire réviser cette adéquation entre notre sens de la liberté et un objet comme l'automobile.
Et alors, si on essaye de réviser cette articulation, comment imaginer autre chose qu'une fuite en avant dans la technologie? Parce que vous évoquiez Elon Musk, qui est donc un fabricant d'automobiles, donc nécessairement, il va trouver des solutions qui sont très éloignées des services publics, très éloignées des communs. Or, vous évoquez la possibilité de rendre les transports communs, mais tout cela pourrait passer par une sophistication de la technique. Est-ce que ça veut dire que la solution aux problèmes écologiques sont des techniques qui seraient de plus en plus sophistiquées, Pierre Charbonnier?
Alors, cette question de la technique, elle est importante quand on essaie de penser l'écologie, mais moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est, comme on dit parfois, technophobe. Et d'ailleurs, je suis pas non plus technophile. Ce que je pense, et il y a dans le livre un chapitre là-dessus, qui est un chapitre sur ce qu'on appelait dans les années 30 la technocratie. En fait, la technocratie, c'est une critique radicale de l'économie capitaliste qui dit que, contrairement à ce qu'on pense très souvent, c'est un système économique à l'intérieur duquel la technologie a été rétrogradée, n'a pas servi de norme à la construction des relations économiques, parce que contre elle, s'est construit en fait, la reconstitution du pouvoir des élites oisives sous la forme des élites de marché. C'est-à-dire, on a optimisé l'économie pour produire un rendement pécuniaire pour les investisseurs, mais pas du tout pour, en fait, optimiser le réglage fin des relations entre un collectif humain, son appareillage, son exosquelette technologique, et les ressources minières, agricoles, l'eau, etc. Et la technocratie, c'était ça. Dans les années 30, c'était essayons d'optimiser ces relations matérielles, et pour y arriver, il faut faire la guerre au pouvoir des investisseurs. Autrement dit, c'est vraiment une critique radicale du capitalisme. Donc il y a des sources de ça. Au 19e siècle, en France, c'est Saint-Simon. Dans les années 30, aux États-Unis, c'est Thorstein Veblen, qui est un économiste et sociologue un petit peu oublié. J'ai essayé de ressortir des cartons parce que je pense qu'il est aujourd'hui très pertinent. Et je pense que l'écologie politique, aujourd'hui, doit se réclamer d'une certaine manière de cette technocratie. Bon, alors, le mot n'a plus du tout le sens qu'on lui donne habituellement, hein, qui est très péjoratif. Et je pense qu'il y a des gens qui le font très bien. Par exemple, les gens de l'Institut Negawatt qui font des scénarios très précis pour essayer de nous montrer comment une transition énergétique de sortie des fossiles peut entretenir un système économique à la fois plus sobre et plus juste. Je pense que les gens qui font de l'agroécologie sont des gens qui pensent de manière technique le rapport au sol, ce qui ne veut pas dire qu'ils cherchent obstinément des gains de productivité par l'ajout de composants chimiques ou par les OGM. Donc la technique, elle est en fait ni notre ennemi, ni notre ami. Simplement, elle est un des outils qui permettent de mieux agencer notre coexistence avec des ressources, avec d'autres vivants. Et il ne faut surtout pas s'en priver.
Alors ça, c'est pour la question de la technique. Ensuite, il y a la question de la production et de la productivité. Si je souhaite l'aborder, c'est parce qu'il y a dans votre livre, Pierre Charbonnier, une réflexion sur la manière dont l'écologie et la politique peuvent se conjuguer. La pensée de gauche, la pensée marxiste, elle a souvent été productiviste. Est-ce que l'on peut imaginer aujourd'hui de prendre ce socle qui a été pensé notamment avec Marx, pour une société qui serait une société qui tournerait le dos à ce productivisme-là ?
Alors, l'une des questions de mon livre est de savoir en quoi nous sommes les héritiers de ce mouvement de justice sociale et en quoi nous ne le sommes plus tout à fait. Alors, si on prend Marx comme le repère principal de la critique de l'organisation capitaliste de l'économie, on est dans une situation un petit peu compliquée. C'est-à-dire que Marx avait très bien compris la situation de l'économie politique libérale qui promettait de convertir l'abondance en liberté par les seuls instruments du marché. Il a vu que ça ne fonctionnait pas, que ça créait de la misère, hein, c'est la loi des reins des salaires des économistes anglais. Il a vu que ça produisait des encombrements matériels, c'est-à-dire on monopolise artificiellement certaines ressources pour en faire monter le prix. Et il a vu aussi que ça désorganisait des rapports de solidarité sociale, notamment dans les campagnes. Mais ce qu'il a vu aussi, c'est que la promesse de la conquête de l'autonomie par l'abondance était quand même une richesse inestimable, et que si le sujet politique qu'est le prolétariat savait s'organiser sur la base de sa maîtrise du processus productif, eh bien, la téléologie historique de l'émancipation du peuple allait pouvoir se réaliser sur la base de ce socle productif. Donc, vous voyez, la relation productive, elle n'a pas du tout été inventée par le marxisme ou par l'anticapitalisme, mais elle a été mise à profit par les luttes subalternes pour faire aboutir leurs demandes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, et c'est pour ça que je dis, je crois, quelque part dans le livre, qu'il faut faire Marx sans la relation productive. Nous sommes dans cette
situation. Qu'est-ce que ça veut dire, justement ? Voilà. Il faut Marx sans la production.
Nous sommes dans une situation où nous devons, je considère que nous devons être les héritiers de ces demandes de justice qui s'étaient formulées dans le socialisme au 19e siècle, dans le contexte de la construction d'une société industrielle, mais que l'impératif écologique est tel que nous devons le faire en quittant la base productive, qui était tout de même considérée par Marx comme le socle de la conquête de l'abondance, de l'autonomie collective.
Oui, c'est-à-dire que la pensée marxiste, je ne parle plus de Marx, mais de l'utilisation qu'on en a faite, y compris d'ailleurs la pensée syndicale française, était une pensée très productiviste, très prométhéenne, qui considérait que en produisant plus, eh bien, on pouvait réussir à autonomiser les masses laborieuses, mais pas seulement. Bref, qu'il y avait.
Et c'était vrai. Et c'était vrai. La mise en forme du droit social entre la fin du 19e siècle et la Seconde Guerre mondiale est absolument indissociable d'une alimentation de l'économie par le charbon, puis par le pétrole, et ensuite le financement de le modèle social est impossible sans un très très haut niveau de croissance et de fluidification des échanges par le pétrole. Aujourd'hui, dans une situation où il faut on pourrait dire accélérer le freinage, c'est-à-dire il faut aller plus vite dans la transition écologique et en fait même dans le retranchement de certaines énergies de notre mix, de notre mode de vie, mais il faut le faire en préservant la chance de tous, on pourrait dire de survivre, même en fait de vivre le mieux possible ou le moins mal possible. Et ça, je pense que nous en avons les moyens. Nous avons d'abord les moyens institutionnels et technologiques d'organiser la fin de la dépendance à l'égard des énergies fossiles, par les renouvelables, mais pas seulement, par aussi des économies, tout simplement. Rénovation du bâti, rapprochement, je vous disais tout à l'heure, de lieux d'habitat, des lieux de travail, etc. Mais nous en avons aussi les moyens, on peut dire, idéologiques, institutionnels, pour réinventer des formes de coopération liées, par exemple, à de nouveaux usages des terres, comme c'est le cas, ça a été expérimenté à Notre-Dame-des-Landes, de mise en commun de certains appareils électroménagers, certains appuis pour les transports. Mais ça, ce sont de nouvelles formes de subjectivité qui doivent émerger. Ça prend beaucoup de temps, ça prendra probablement plus de temps que les 10-15 ans qui nous sont impartis pour arriver à une neutralité carbone. Mais c'est le grand chantier de ce que doit être l'équivalent contemporain de ce qu'a été le mouvement social au XIXe siècle.
8h40, nous recevons Pierre Charbonnier, philosophe dans les matins de France Culture. Vous publiez Abondance et Liberté. C'est une réflexion extrêmement ambitieuse sur la manière dont l'écologie et la politique s'articulent. C'est un livre publié aux éditions de La Découverte. Or, il est question aujourd'hui de survie de l'humanité. Alors, de survie, par exemple, en Australie, où on a affaire à des évacuations massives face aux incendies. Il y a déjà eu des morts. 8 personnes sont mortes suite à ces incendies qui sont notamment liés au réchauffement climatique, parce que l'on considère que la sécheresse, que les vents, sont des causes de ces incendies. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Charbonnier, de non seulement ces incendies, mais de ces catastrophes qui semblent aujourd'hui égrener l'actualité et être la conséquence directe ou indirecte du réchauffement climatique?
D'abord, sur l'Australie, c'est quand même une histoire dramatique, mais en quelque sorte fabuleuse aussi. L'Australie, c'était l'exemple type au XVIIe, XVIIIe siècle de ce qu'on appelait la terra nullius, c'est-à-dire une terre qui n'appartient à personne. Et comme elle est réputée n'appartenir à personne, parce qu'évidemment on faisait peu de cas des populations aborigènes, elle était réputée libre pour la conquête, l'installation de migrants blancs, et la réplication, si on veut, du modèle britannique sur de nouvelles terres. Mais ça, au prix d'une modification profonde des terres, d'une modification évidemment profonde de la population résidente. Et aujourd'hui, l'Australie est un des principaux producteurs de charbon, et le gouvernement actuel est le garant du modèle de développement économique sur la base du charbon de ce pays-là. Et il se trouve que c'est aussi l'un des pays les plus fragiles écologiquement, parce que très sec, pour des raisons climatiques, et qui s'aggravent avec le changement climatique. L'Australie, c'est aussi le pays hôte de la Grande Barrière de Corail, qui est un des hotspots de perte de biodiversité. Donc l'Australie, on peut dire, c'est magnifique, parce que c'est un symbole à la fois des racines conquérante et extractive du modèle d'économie et de peuplement de la modernité, mais c'est aussi un des premiers, une des premières régions du monde qui est en train de tomber, on pourrait dire. Ces feux sont gigantesques, sont dramatiques, et vous dites 8 morts, c'est assez peu, 8 morts, c'est moins de morts que dans un accident de bus grave, mais à la limite, ce qui est plus grave, c'est toutes ces populations qui se déplacent, tous ces gisements de biodiversité qui disparaissent. Et donc là, rentrer dans l'année 2020, dans la nouvelle décennie, avec d'un côté l'alliance entre les conservateurs et les écolos en Autriche, les feux en Australie, on est tout de suite dans ce que la réalité a de plus hard.
Qu'est-ce que l'on peut faire face à ces catastrophes lorsque l'on considère qu'on a affaire, en Australie par exemple, à une conséquence du réchauffement climatique? Pierre Charbonnier, qu'est-ce que l'on peut tenter de penser, là, comme vous l'avez évoqué, c'est l'histoire de l'Australie qu'il faut reprendre en quelque sorte à l'envers?
Alors effectivement, bon, quand on est un chercheur comme moi, un auteur, ce qu'on peut faire, c'est écrire des livres pour expliquer au plus grand nombre possible de gens, d'où viennent ces pathologies et quel type de prise intellectuelle on peut avoir sur elles, de manière plus empirique, plus immédiatement politique. Moi, je pense que notre plus grande espérance peut venir de l'alignement d'intérêts entre plusieurs groupes sociaux habituellement distincts les uns des autres. Par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure les expérimentations écologiques, territoriales, des militants de Notre-Dame-des-Landes, et tout ce grand peuple dont les aspirations écologiques aujourd'hui sont pour lesquelles sont centrales. Il y a aussi ce grand peuple pour lequel les aspirations à la justice économique commencent à se retraduire aussi dans des termes écologiques. C'est le cas des gilets jaunes notamment, on en parlait tout à l'heure. Et il y a des processus de politisation de certains gilets jaunes qui vont dans ce sens-là. J'espère que ça va se confirmer. Par exemple, Priscilla Ludowski en est un excellent exemple. Elle a un rôle important à jouer. Et puis, il y a un autre peuple qu'on oublie parfois. C'est le peuple des élites technocratiques, bureaucratiques de l'Union européenne, mais aussi en France, qui commencent à comprendre qu'en fait, le modèle de développement économique dont ils étaient les garants ne garantit plus rien, et qu'il faut en changer, et que parmi eux, il y a, espérons, des gens de bonne volonté qui vont aller taper aux portes des banques centrales, des grandes banques, des grandes entreprises de l'agronomie, de l'énergie, et qui vont aller taper très fort à leurs portes pour leur dire cette fois, ça n'est plus possible. Et si l'alignement d'intérêts et de pratiques politiques, de pratiques de socialisation entre ces trois grands peuples se réalise et se réalise sans trop tarder, alors je pense qu'on va réussir à se garder des conséquences les plus dramatiques, mais faut être lucide aussi. Les feux de forêt en Australie, ça c'est le monde à plus 1 degré, à 410 par million de gaz à effet de serre. Là, la trajectoire nous montre qu'on va avoir du mal à être en dessous de 2,5, 450, 460. C'est vraiment un tout autre monde. Il y a des régions entières qui vont être bouleversées avec leur population. Ça, moi, je fais pas de prévision, mais le choc va être très difficile à encaisser. Et nous, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, nous n'arriverons à l'encaisser que si nous sommes en mesure de préserver des institutions démocratiques.
Et si c'était la fin du monde, par exemple, alors je dis ça le 2 janvier, et de manière tranquille, mais certains le disent de manière plus articulée, Pierre Charbonnier, qu'est-ce que l'on peut faire face à la fin du monde, dans ce cas-là, comme le pensent les collapsologues, si tout était fichu?
Mais c'est déjà la fin du monde, en fait. C'est pour ça que
c'est une bonne nouvelle.
L'argument collapsologique, il est lui aussi en porte-à-faux par la réalité. C'est déjà la fin d'un monde. Et puis ça dépend où nous vivons. Les infrastructures d'approvisionnement alimentaire, énergétique vont pas cesser de fonctionner d'un jour à l'autre. Mais dans d'autres régions du monde, elles n'ont jamais vraiment existé. Faut quand même pas oublier. Donc l'idée que nous devrions sauter à pieds joints brutalement dans le monde de l'après-catastrophe, c'est une simplification vraiment de la réalité écologique et politique. Donc c'est pour ça, moi...
Comment expliquez-vous, malgré tout, la vogue de survivalisme, puisque la collapsologie, donc cette discipline, je ne sais pas d'ailleurs si on peut vraiment appeler ça une discipline, en tout cas, ce type de discours qui consiste à dire que de toute façon, c'est la fin des temps et qu'il faut tenter de s'adapter à cette fin des temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre Charbonnier?
C'est très difficile de se prononcer parce que
vous l'avez fait dans un article, disons, publié dans la
revue. Le problème, c'est que
Crieur.
Depuis que j'ai écrit ce texte, les tenants de la collapsologie ont beaucoup changé de position, parce que toutes les critiques qu'on leur fait, moi, mais aussi d'autres camarades, d'autres collègues, les collapsologues nous répondent toujours oui, mais en fait, on est d'accord avec vous, on y avait pensé. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de changer de position. Et tant mieux.
Ça veut dire aussi que c'était pas un discours extrêmement précis.
Mais c'est pas grave. Il y a toujours des réactions un peu bizarres à des phénomènes sociaux dramatiques. Donc, si parmi les gens qui ont été, dont l'imaginaire politique, dont les affects ont été captés par le discours collapsologique, si parmi eux il y a des gens qui se tournent soit vers des expérimentations locales, soit vers une politisation vraiment militante, tant mieux. Je pense qu'il y aura aussi parmi eux des gens qui vont se tourner vers un repli, voire une militarisation de l'effort d'adaptation. Tant pis pour eux, tant pis pour nous, j'espère qu'ils ne seront pas trop nombreux. Mais voilà, la collapsologie est le miroir de très nombreuses angoisses contemporaines. Moi, je pense que ça ne donne pas de très bons livres, parce que je suis un spécialiste de la question, je connais un peu la science, que je connais les éléments politiques et historiques, donc je pense que en tant que tel, ça ne donne pas des très bons livres. Mais ça, à la limite, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est ce que vont devenir les gens dont les affects ont été captés par le discours collapsologique. Moi, j'espère qu'on va les récupérer dans le mouvement, on peut dire, de démocratie écologique radicale. Et évidemment, ils sont accueillis. Mais je suis très curieux de savoir ce que ça va donner.
Mais alors, le survivalisme, parce que c'est pas seulement une question de livre, c'est aussi une question de manière d'envisager l'avenir, avec peut-être là aussi une forme de pensée de plus en plus religieuse, de plus en plus apocalyptique. Est-ce que vous pensez que ça peut provoquer un sursaut, ou bien au contraire enfoncer les gens, je ne sais pas moi, dans le désespoir et dans une forme de fatalisme?
Honnêtement, je ne sais pas. Le fait qu'il y ait une dimension religieuse dans la collapsologie n'est pas une spécificité très marquante, parce que on pourrait dire que la question écologique offre des prises aussi, par exemple, aux chrétiens sociaux, hein, qui veulent reconstruire des espaces de coopération sur la base du local. Donc, vous voyez, la régénération de ces types d'aspirations spirituelles, c'est pas spécifique aux collapsologues.
Alors, en tout cas, on peut retrouver tout cela dans la revue de France Culture, la revue papier, où il est question des pensées de la fin du monde. Et puis on peut bien entendu se référer à votre livre, Pierre Charbonnier, Abondance et Liberté, une histoire environnementale des idées politiques, publié aux éditions La Découverte.